des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. C'est rare que je vous parle de ma vie privée, mais là je vais vous raconter ce que j'ai fait par un beau dimanche après-midi hier. Je suis allée me faire vacciner pour ma troisième dose, puisque mes deux premières doses étaient des AstraZeneca, donc je suis allée chercher mon Pfizer. Et vous le savez peut-être, si vous écoutez l'émission de temps en temps, vous savez que j'ai une phobie vraiment des aiguilles. Je me mets à sangloter comme un enfant de 5 ans quand je vois une aiguille. Et justement, je voulais remercier les infirmières qui travaillent à la vaccination avec des grands-enfants comme moi qui sont d'une patience extraordinaire. Je voudrais aussi noter l'extrêmement bonne organisation. Vraiment, le Québec m'impressionne beaucoup. C'est toujours très, très bien organisé, c'est rapide, c'est sécuritaire. Et surtout, je voudrais féliciter les petits-enfants que j'ai vus hier en grand nombre, accompagnés évidemment de leurs parents, encadrés par Spider-Man et un tas de petites princesses pour vraiment que cette opération de vaccination soit un succès. Quand j'ai vu, je vous avoue, Spider-Man arriver pour me consoler parce que je sanglotais à la vue d'une aiguille, j'ai poussé un grand et très amusé. Ben voyons donc!
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Écoutez, j'ai lu ça dans le journal. Mes yeux n'en croyaient pas mes oreilles, comme on dit à la blague. Des chiffres absolument hallucinants. Il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, surtout chez les enfants, qui ont des drôles d'idées de nutrition. Par exemple, 50 % des enfants américains pensent que la frite est une viande. Quand je suis tombée sur ces chiffres-là, je me dis, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. J'avais envie d'en parler avec Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition et que vous lisez, bien sûr, régulièrement dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bonjour, Isabelle.
Bonjour, Sophie. C'est un plaisir de te retrouver. Mais effectivement, cette étude-là, ben écoute, comme toi, j'ai dit, oh, j'ai été très étonnée. Et puis, ben, je suis allée chercher un petit peu plus loin. J'ai vu l'étude au complet aussi, là.
D'accord. Alors, ça a été publié quand même dans le Journal of Environmental Psychology. Donc, c'est pas un truc qui a été fait sur le coin de la table. On a demandé à 176 enfants américains âgés de 4 à 7 ans de déterminer l'origine de 13 aliments, leur demandant, ben, ça, c'est d'origine animale ou d'origine végétale. Bon, on explique qu'il y a certaines réponses quand même qui peuvent être explicables parce que, tu sais, c'est sûr que si tu parles à un enfant de 4 ans, il croit aux licornes puis il croit encore au Père Noël puis à la Fée des Étoiles. Mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Comme par exemple, 41 % des enfants qui croient que le bacon, c'est une plante.
Oui.
Allô?
Ben non, je le sais. Et les enfants, écoute, ben premièrement, dans cette étude-là, 55 % des enfants provenaient de ménages à faible revenu. Donc ça, ça peut être une piste peut-être exploratoire. Au niveau de l'identification, évidemment, c'est un constat, surtout chez les plus jeunes, hein, parce qu'il y avait deux groupes. Il y avait un groupe plus âgé chez les plus jeunes, comme tu dis, bon, on peut s'attendre à ce genre de résultat-là. Le fromage également, 44 % des enfants ont mal identifié le fromage, pensant que ça venait des plantes. Les saucisses hot dog, 40 % le poulet, 38 % Et quand on s'en va vers les légumes, les fruits, 17 % ont mal identifié les carottes, 16 % les pommes. Mais le constat, c'est surtout pour la viande. Et il y avait une autre partie à l'étude où les enfants devaient dire, bon, est-ce que la vache, on consomme ça? Ben, 77 % des enfants disaient non. Le cochon, est-ce qu'on peut manger ça du cochon? 73 % des enfants disaient non. Et le poulet, 66 % disaient non. Puis là, quand on cherche des pistes, pourquoi? Ben, on parle surtout dans l'étude de la réticence des parents de parler de l'origine des aliments. On sait que les enfants adorent les animaux. Puis là, tu te dis, ben là, si le porc que tu manges, le bacon que tu manges provient d'un joli petit porc, ben peut-être que l'enfant ne voudra pas manger de viande. Donc, ça, c'est la piste numéro un qui est identifiée vraiment par les chercheurs. Puis j'étais contente d'aller chercher l'étude parce que souvent, on lit les gros titres. Ben,
bien sûr.
Il y a un manque d'éducation, ça n'a pas de sens. Et quand tu lis les raisons qui sont évoquées, ben il y a ça. Puis les enfants qui identifiaient correctement pensent que la viande vient d'un animal qui est décédé de cause naturelle. Là, on va extraire la viande, il faut surtout pas maltraiter l'animal, il faut en prendre soin. Donc, il y a tout ça là, qui explique un petit peu les résultats. Là. Il y a aussi le fait qu'il y a un manque de ressemblance en épicerie. Par
exemple, oui.
La plupart mangent des poitrines de poulet. Le poulet entier, c'est de moins en moins commun dans les ménages. Là.
Ah oui! Alors, c'est sûr que si tu fais juste manger, par exemple, si tu vas chez McDonald's ou à une chaîne de restauration rapide et que tu manges une croquette de poulet, ben tu vois, tu fais pas le lien entre ça et l'animal. Parce qu'il n'y a pas d'os, il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de tête, alors que c'est sûr, tu te dis, bon, ben là, ça sort d'où les croquettes de poulet? Ben ça sort de la friteuse.
Mais c'est exactement ça, Sophie, t'as tout compris. C'est vraiment ça. Donc, le bacon, comment faire le lien avec le porc, le filet, même les poissons, tu sais, c'est des filets de poissons panés que la plupart des enfants américains mangent. Et là, tu te retrouves, comment tu penses que ça vient? Des poissons entiers, personne ne mange ça au presse. Fait que là, t'as un filet de poisson blanc, enrobé de chapelure, ça sort d'une boîte qui est congelée. Donc, c'est très difficile de faire le lien avec le poisson. Même chose, saucisse hot dog. Une saucisse hot dog, ça vient d'où? Tu penses quasiment que c'est un ficello, tu sais pas. Donc,
oui, mais en même temps, excuse-moi Isabelle, mais même les adultes, on sait pas trop ce qu'il y a dans les saucisses.
Ben, non, écoute, surtout quand tu lis la liste d'ingrédients, viande, extrait de porc et ou de bœuf et ou de, on sait pas trop, puis il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, effectivement. Donc, ça, c'est un autre point qui est important. Puis il y a aussi, moi, je pense que ça va être pire, de pire en pire, parce que il y a tous les produits d'origine végétale, le genre Beyond Meat, Beyond Burger.
Oui, exactement.
Ben oui, puis qui ressemble à la viande. Donc là, imagine, les enfants de demain vont dire, bon, ben là, c'est-tu une imitation de la viande? Est-ce que c'est de la viande produite en laboratoire ou c'est de la viande qui vient effectivement d'un élevage? Donc, ça va être de plus en plus complexe. Je pense dans des pistes de solutions, parce que c'est quand même un constat qui est déplorable, ben c'est de ramener de la terre à la table, d'inviter les enfants à avoir un potager, de comprendre bon comment ça pousse, parce que ça aussi, même dans les fruits et légumes, bon, c'est les pommes au Québec, c'est assez facile, mais quand même, comment ça pousse? Est-ce que ça vient d'un arbre? Est-ce que ça vient de la terre? D'amener les enfants dans une fromagerie, parce que le fromage, aucune idée. Il y a une autre étude que j'ai lue qui a le tiers des enfants de 5 à 8 ans qui ne savent pas de quoi sont faits le pain, le fromage et les pâtes alimentaires.
Hein?
Ils n'ont aucune idée. Effectivement.
Ah, ça, c'est particulier parce que, bon, là, c'est quand même la base. Puis, écoute, surtout que pendant la pandémie, il y a plein de gens qui sont mis à faire du pain. Donc, peut-être qu'ils ont découvert pour la première fois comment on faisait ça, cette affaire-là. Mais je veux juste revenir un tout petit peu en arrière parce que tu as dit quelque chose. C'est que si un enfant, on lui demande, bon, le bacon, ça vient d'où? Puis qu'il ne fait pas le lien avec le porc. Ou qu'on lui demande, est-ce que le cochon, ça se mange? Il dit non, non, non. C'est aussi parce que c'est une société, la société américaine, puis je nous inclus là-dedans comme étant nord-américain, c'est une société où on a tellement valorisé la viande, où on a tellement fait le centre de notre assiette, que c'est sûr que si on montrait à tout le monde le petit cochon qui se fait égorger, puis trancher en morceaux, puis que c'est ça le bacon, ben je pense qu'il y a plein de gens qui arrêteraient de manger du bacon.
Ben voilà, puis c'est exactement là où les chercheurs nous amènent. On dit bon, les enfants c'est des vecteurs de changement. On doit diminuer notre impact sur l'environnement. L'impact carbone de la viande est de loin supérieur à l'impact de la culture des végétaux. Donc on dit ben faudrait poser sensibiliser les enfants à ce constat-là, d'où ça vient la viande. Les enfants ne voudront plus manger de viande, tant mieux, c'est meilleur pour l'environnement. Donc, c'est publié aussi dans un magazine pro-environnement.
C'est
mentionné l'étude par un groupe environnementaliste. Donc, on comprend que le but de cette étude-là, c'est de nous amener, il faut faire quelque chose, il faut éduquer les jeunes, il faut qu'ils comprennent qu'il y a de la maltraitance animale, il faut qu'ils comprennent que les animaux souffrent. Et comme ça, maintenant, ça va être des adultes du futur qui mangeront plus de viande et c'est encore mieux pour l'environnement. Ben, c'est ça la conclusion de cet article-là, finalement.
Mais ça, c'est intéressant. Et moi, j'ai une question pour toi, ma belle Isabelle. Si on faisait ce sondage-là, parce qu'évidemment, tu peux pas sortir ça de ta tête, là, mais si on faisait, d'après toi, le même sondage au Québec, est-ce que les chiffres seraient pas mal pareils, d'après toi?
Oui, vraiment.
Oui, hein?
Oui, absolument. Absolument. Puis on le voit, tu sais, que le poulet entier, c'est de moins en moins acheté. Puis ça, c'est, on voit le panier d'épicerie qui augmente de manière affolante. Puis ça, c'est de retourner vers un panier d'épicerie, de réduire le budget alimentaire pour plusieurs familles, ça passe par acheter des aliments entiers qu'on prépare soi-même. Donc, de retourner vers faire son bouillon de poulet soi-même, acheter le poulet en entier. Et puis ça, c'est une piste de solution, là.
Oui, tout à fait. Mais tu as tout à fait raison de le mentionner. C'est vrai qu'on regarde, ça, c'est absolument effarant, les prix.
Oui.
Et en effet, une bonne façon de le faire, c'est de prendre le poulet en entier. Non seulement parce que ça coûte moins cher, mais en plus parce qu'on peut l'apprêter à notre façon. C'est nous qui décidons, est-ce qu'on le met des petites gousses d'ail dans le troufignon du poulet, est-ce qu'on lui met des petits citrons, des branches de romarin, est-ce qu'on le met, tu sais, je veux dire, c'est bien mieux ça que d'acheter du poulet tout préparé, mais aussi l'éducation, c'est-à-dire que si un enfant il voit jamais à quoi ça ressemble la nourriture, il y a une dissociation complète entre le monde agricole et le monde urbain. Ça veut dire que c'est le puis pendant la pandémie, on s'est rendu compte à quel point on dépendait des agriculteurs, à quel point l'approvisionnement c'était important, mais si on n'est même pas conscient de la façon dont ça se passe, là on est complètement dissocié de ces gens-là qui nous nourrissent.
Exactement, puis c'est exactement ça, il y a tellement peu d'exposition à l'élevage, à la transformation. Donc, le potager, c'est une chose, mais d'aller faire des visites à la ferme, c'est important d'aller visiter des fromageries, de voir comment ça se fait du fromage, d'aller visiter des boulangeries aussi, d'aller au marché public, de voir les grandes carcasses de bœuf. Là, on comprend mieux déjà, puis de demander au boucher de la prêter, ça nous expose, puis on comprend que ça provient d'un animal. Donc ça, je pense que c'est ça devrait faire partie de l'éducation, tant à l'école que au sein des familles, là.
Alors, c'est assez particulier parce que moi, je suis vraiment pas bonne en cuisine, mais il y a une recette que je réussis bien, c'est le lapin à la moutarde avec des petites échalotes. Et
là, on comprend tout, là.
Écoute, quand tu vas à la boucherie, là, puis que t'as le lapin qui a l'air d'un lapin, il y a pas sa tête, mais tout le reste du corps d'un lapin, ça a vraiment l'air d'un lapin. Ben, c'est aussi ça, là. Il faut aussi l'éducation des enfants en leur disant, ben tu sais, la viande que tu manges, là, il n'y a pas très longtemps, c'était un petit lapin qui gambadait. Ben là, je pense qu'ils n'auront plus envie d'en manger. Mais ce que je veux dire, c'est aussi, il n'y a pas très longtemps quand même, il y a peut-être quoi, 30, 40 ans, les enfants étaient beaucoup plus en contact, justement, avec les animaux, puis on comprenait le lien. Puis aussi, on avait un respect pour les animaux parce qu'on savait que c'était ça qui nous nourrissait. Alors que là, c'est comme cette fameuse dissociation fait en sorte qu'on n'a pas le même respect ni pour les agriculteurs, ni pour les animaux qui nous nourrissent.
Exactement. Non, c'est ça. Dans ce sens-là, je pense que l'évolution a été délétère à ce niveau-là. Puis un retour à la ferme, c'est sûr ça que c'est gagnant.
Oui. Écoute, Isabelle... j'aurais le goût de te demander, je sais que toi, t'es semi-végétarienne, en fait, tu manges très, très peu de viande, hein?
Très peu de viande, très, très peu de viande. Moi, je trouve que c'est l'équilibre. Je m'inspire du régime méditerranéen. Puis, tu sais, je pense que c'est parfait. Très, très peu de viande. De temps en temps, moi, je suis pas difficile. On m'invite, on me sort un filet mignon, comme ce samedi. La fête de mon amoureux, j'ai un filet mignon sur la table. J'en prends, c'est parfait. Je suis pas difficile. Mais c'est ça qu'essentiellement, moi, j'aime beaucoup les produits d'origine végétale. Tout ce qui est tofu, légumineuse, bassin méditerranéen. C'est vraiment la cuisine qui m'inspire et qui me plaît le plus.
Alors, oui, l'équilibre. Alors, j'ai juste une question pour toi. Qu'est-ce que tu fais à Noël? Parce que, tu sais, Noël, c'est traditionnellement la dinde.
Oui.
Alors, avec tout, là, en plus, avec la farce et tout ça. Alors, comment on fête Noël quand on est dans le régime méditerranéen?
Ah, très bonne question. Ben, écoute, à chaque Noël, je suis absente, et inclus cette année. Et là, ben, croyez-le ou non, je serai en Tanzanie. Je sais même pas si je vais être prise là-bas, si je vais pouvoir rentrer. Mais dans mes voyages, normalement, je m'inspire de la cuisine locale. Donc, j'ai mangé des chenilles à Noël, certains insectes. Ça m'arrive parce que j'aime goûter à tout. Je peux pas dire j'en ai un souvenir mémorable, mais on est dans des tentes en plein parc Serengeti en Tanzanie, donc j'ai aucune idée ce que je vais manger à Noël.
OK, mais moi, quand tu as mangé des chenilles, je veux juste savoir, les as-tu mangé avec des atokas?
Oh, pas du tout, mais pourquoi pas, ça pourrait enlever le goût terreux qui reste en bouche à peu près pendant une semaine. Ah non, j'ai pas aimé, mais ça aussi c'est culturel, parce que on a déjà un dédain de manger. Moi, j'ai aucun problème de prendre la poudre de grillon qui est déjà en poudre, parce que bon, tu vois pas, mais tu sais, c'est un blocage culturel, là. Tellement consommé les insectes un peu partout dans le monde, je dois passer par-dessus moi aussi, là.
OK. Bon, alors, donc, je retiens chenille avec atoka, peut-être pas, mais peut-être un bon tofu tao, là, des recettes bien relevées avec des épices et tout ça, ça peut être une bonne option pour Noël.
Oui, parce que mon voyage à Noël que j'ai préféré, c'était en Inde, où on a mangé strictement végétarien avec relevé d'épices, c'était sublime.
Absolument. Bon, ben comme ex-végétarienne aussi, je t'appuie tout à fait. Maintenant, je suis revenue à une alimentation plus équilibrée, je dirais plus pesco-végétarienne. Je mange de la viande, mais très peu. Mais ben voilà. Alors, écoute, c'était vraiment très rigolo de parler de ça avec toi, ce sondage quand même assez hallucinant, avec un très fort pourcentage d'enfants qui comprennent pas du tout d'où viennent la nourriture. Donc, je pense qu'on a encore un travail d'éducation à faire. Isabelle, je te souhaite une super belle période des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année 2022. Puis, je trouve qu'on s'est pas beaucoup parlé, toi et moi, en 2021, fait qu'on va compenser en 2022. Faut qu'on se parle plus souvent.
Avec grand plaisir, Sophie. Ben, joyeuses fêtes à toi également, puis à tous les auditeurs.
T'es fine. Merci beaucoup, Isabelle Huot. Donc, qui est diététiste et qui est docteur en nutrition, excusez-moi l'expression juste, c'est ça, et que vous lisez régulièrement dans le Journal de Montréal, Journal de Québec.